la présentation un peu que j'ai préparée. Alors, vous n'hésiterez pas à m'interrompre, ben, d'abord si je ne parle pas assez fort, et puis aussi s'il y a des points que vous jugez incompréhensibles, enfin, ou mal compréhensibles. Sinon, pour des questions vraiment de débat, je propose de me laisser faire l'intervention, je vais essayer d'être assez court, et puis que les questions de fond un peu qui se posent soient posées à la fin, qu'il y ait un débat là-dessus, avant qu'on ne passe donc au fonctionnement en petit groupe. Si je veux m'excuser parce que je n'ai pas réussi vraiment à trouver un plan auquel me conformer, ce qui fait que j'ai un petit peu peur que ma présentation elle fasse des allers-retours et qu'elle ne soit pas toujours très construite. Bon, on verra ce que je vais arriver à faire. Voilà. Et donc, le sujet que j'ai proposé, c'est pour en finir avec l'idée d'humanité, parce que c'est, à mon avis, c'est un sujet qui est crucial par rapport à la question animale, parce que cette idée d'humanité, c'est fondamentalement l'idée qui fait obstacle à une prise en compte réelle des intérêts des autres animaux, et simplement, c'est une question qu'on a du mal à aborder frontalement. C'est-à-dire que depuis qu'il y a des personnes qui luttent sur la question animale, c'est une question qui revient sans cesse, mais qui revient au détour d'une phrase ou au détour d'un paragraphe, mais qui n'est jamais abordée avec, à mon avis, l'importance qu'il faudrait lui accorder. Je pense parce que simplement le morceau est trop énorme. C'est une montagne à laquelle on s'affronte et qui n'est pas évidente, qui est bien défendue, quoi. C'est un morceau qui est bien défendu. J'aurais pu intituler, je pense, la présentation débat autrement que pour en finir avec l'idée d'humanité, d'une façon peut-être un peu moins polémique, enfin, mais du style pour en finir avec l'idée d'humanité et celle d'animalité, ou pour en finir avec l'humanisme, ou ce genre de formulation. Tout bonnement pour en finir avec le spécisme. C'est-à-dire que cette idée d'humanité, c'est simplement l'incarnation particulière que prend l'idéologie spéciste en mettant l'accent sur notre humanité. C'est notre humanité qui, à nous autres humains, nous donne de la valeur, et c'est le fait que cette humanité n'est pas présente chez les autres animaux qui leur retire toute valeur ou tout droit à quelques considérations que ce soit. Alors il se trouve que cette idée d'humanité, c'est une idée absolument socle, fondamentale de notre civilisation, et ça depuis à peu près la Renaissance, enfin en tout cas le mouvement récent commence vraiment avec la Renaissance, avec le recul, avec la laïcisation, on va dire, du christianisme, où avant c'était quand même beaucoup le fait d'être chrétien qui était fondamental, qui nous donnait une identité et qui fondait notre groupe d'appartenance. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge c'était la chrétienté, le groupe d'appartenance fondamental, et l'identité fondamentale des gens c'était le fait d'être chrétien, ils se définissaient comme ça. Progressivement à partir de la Renaissance, on voit un mouvement qui se dessine et qui va s'affirmer au fil des siècles, et qui maintenant est parvenu vraiment à son apogée, qui va voir les gens se définir de plus en plus en tant qu'humains, en tant que faisant partie d'une espèce biologique d'une part, et d'autre part d'une sorte de processus anthropologique, de civilisation, de liberté, etc. Et qui va voir la notion d'humanité en tant qu'identité, donc prendre de plus en plus d'importance, s'affirmer de plus en plus comme une notion positive, et prendre de plus en plus de contenu. C'est-à-dire, c'est une notion qui va accroître les significations qu'elle peut revêtir, qui va prendre de plus en plus de significations. Et le groupe d'appartenance fondamentale va de moins en moins être la chrétienté, là je parle de nos civilisations donc, mais de plus en plus l'humanité, prise au départ de façon quand même générale, comme l'espèce biologique à laquelle on est censé appartenir, mais avec initialement énormément de réduction ou de... comment est-ce qu'on dit de, des points qui sont mineurs. Je trouve pas le mot, mais ce que je veux dire, avec beaucoup de... Par exemple, l'humanité du 18e siècle, c'est l'humanité masculine, blanche, adulte essentiellement, et riche. C'est l'humanité occidentale, c'est l'humanité dite civilisée. C'est-à-dire que la notion d'humanité, elle fait bien référence à la notion d'espèce, mais c'est pas l'appartenance à l'espèce en soi n'est pas suffisante pour faire pleinement partie de l'humanité. Il faut posséder un certain nombre d'autres caractéristiques pour vraiment être reconnu comme pleinement humain. Donc être homme et non femme, être adulte et non enfant, être blanc ou riche, c'est-à-dire de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, et non de peuples d'autres continents ou pauvres. Et parce que cette notion d'humanité, elle n'a jamais été un pur fait, et d'ailleurs elle ne pourrait pas l'être, je pense que j'y reviendrai, mais ça a toujours été une notion qui, comme toutes les identités en fait, qui se pose comme étant une sorte de description d'une appartenance à un groupe. Donc l'humanité, c'est le fait d'appartenir au groupe de l'humanité. Enfin, le fait d'être humain, c'est le fait d'appartenir à l'humanité. Ça se pose comme ça, qui est quasiment une définition descriptive. Mais dans la pratique, n'est pas humain qui veut. Il faut remplir un certain nombre de critères qui se rajoutent aux critères de la simple appartenance à un groupe de type biologique. Pour être humain, il faut ne pas être inhumain. Il faut ne pas être monstrueux. Il faut ne pas être trop animal, bestial, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de comportements à remplir pour appartenir de plein droit à la catégorie. Et il y a aussi des catégories qui, de fait, quoi qu'elles fassent, vont se voir refuser un accès de plein droit à la catégorie pleine et entière. Donc je citais par exemple les femmes qui d'emblée étaient déconsidérées comme pleinement humaines et qui étaient renvoyées à l'autre pôle, au pôle opposé au pôle humanité, qui est le pôle nature, les femmes étant un peu la part naturelle dans l'humanité, quoi, du fait qu'elles sont investies d'une mission de procréation, etc., d'après l'idéologie patriarcale. De la même façon, les peuples colonisés ou mis en esclavage n'étaient pas pleinement des peuples, ne faisaient pas pleinement partie de l'humanité. Leur humanité était postulée comme étant incomplète et comme étant au mieux en devenir. De la même façon que les enfants, d'une certaine façon. Il leur restait à accéder à la raison, à la liberté, à la civilisation, de la même façon que les enfants. Bon, mais pour revenir à cette idée d'humanité, donc, fondamentalement, elle s'est créée d'emblée par opposition à l'animalité et à la nature. Et c'est une idée qui a été créée, je pense, fondamentalement pour diviser, pour opposer un nous et un autre. C'est ce que dit Françoise Armengo dès 84. Mais ce que je disais là, c'est que la plupart des gens qui sont intéressés à la question animale ont relevé ce genre de fait, même s'ils n'en ont pas fait un point central de discussion. Mais là, dans l'Encyclopédie Universalis, en 84, Françoise Armengo, qui est une universitaire de Nanterre, mais qui est aussi féministe, qui a beaucoup participé à la revue Nouvelles questions féministes, elle commence son texte par dire « Si l'on demande où réside la pertinence de ces catégories disjointes que sont l'animalité et l'humanité, et si l'on rappelle alors que l'homme est un animal, la seule réponse est que, selon toute apparence, il y a d'abord nous et ensuite les autres, et que l'entreprise de classer enferme tous les autres confondus dans une même barbarie. Ce qu'elle dit, grosso modo, c'est que la pertinence des catégories animalité-humanité, elle est fondamentalement une pertinence de division, de classification, qui vise à enfermer, à créer un nous et un les autres, et à enfermer l'ensemble des autres dans une sorte d'étrangéité et de barbarie dont on est, nous, dispensé. Bon, elle a écrit un long texte, un peu intello sur ces questions-là, mais qui est quand même vachement intéressant, surtout qui date de bien avant qu'il y ait un mouvement de critique organisé des rapports humains-animaux, donc puisque ça date de 84 en France. Mais on retrouve des propos similaires aussi chez Claude Lévi-Strauss, chez Derrida, chez Florence Burgat, etc. Simplement, cette notion d'humanité, c'est une notion qui est tellement centrale dans notre civilisation qu'il est extrêmement difficile de l'attaquer frontalement. Et là, le sujet un peu de cette présentation, c'est, je voudrais dire que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette attaque-là. Et je pense qu'on peut pas, alors, il reste à voir comment, par contre. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de briser le tabou qu'il y a autour de l'idée d'humanité. Je pense fondamentalement qu'il s'agit d'une idée criminelle par rapport à la question animale, mais pas seulement, par rapport aussi à énormément de questions humaines, et que c'est une notion qui est fondamentalement anti-éthique. C'est-à-dire que raisonner en termes de morale, en termes d'humanité, raisonner, quand on raisonne en termes de morale, en termes d'humanité, c'est éviter de raisonner en termes véritablement éthiques, de la même façon que quand on raisonne, par exemple, en termes de nature. Quand on se pose la question, par exemple, de ce qui est humain ou de ce qui ne l'est pas, ou quand on se pose la question de ce qui est naturel ou de ce qui ne l'est pas, pour décider de ce qui serait juste ou pas, eh bien, on ne se pose justement pas la question de ce qui serait juste ou pas. On dévie la question et finalement on la contourne et ça nous permet de ne pas nous la poser ou de ne pas nous la poser de la façon juste. Alors évidemment, la critique à laquelle je me livre, c'est une critique qui part d'un point de vue précis, qui est un point de vue animaliste et même antispéciste, donc je suis opposé au spécisme, qui est la discrimination fondée sur le critère d'espèce dont sont victimes des individus. Comme le racisme ou le sexisme sont les discriminations fondées sur les critères de race ou de sexe dont sont victimes des individus. C'est-à-dire que c'est d'un point de vue égalitariste. Je suis égalitariste, je pense que l'ensemble des êtres sensibles, du fait qu'ils sont sensibles, qu'ils ressentent des sensations, ont une vie qui leur importe, ont des intérêts à défendre, qui sont des intérêts qui leur importent, à vivre bien, à vivre une vie la plus riche possible, à éviter au maximum les souffrances et les douleurs, et à vivre le plus longtemps possible la vie la plus riche possible. Et je pense qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas prendre en compte les intérêts de l'ensemble des êtres qui ont des intérêts à défendre, et qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas les prendre en compte de façon égale. C'est-à-dire que si ce sont des intérêts similaires, par exemple l'intérêt, d'un rat à ne pas se faire plonger la patte dans de l'eau bouillante, je pense que c'est un intérêt très similaire au mien, de ne pas me faire plonger le pied dans de l'eau bouillante, quoi. Je pense que les différences sont relativement minimes et qu'il faut prendre en compte de façon similaire ces intérêts-là, même si on ne fait pas partie de la même espèce. Et donc la critique du spécisme, c'est la critique du critère d'espèce. Pour dire simplement, c'est un critère qui n'est pas moralement pertinent. C'est un critère qui n'offre aucun lien logique avec la question de comment on doit traiter quelqu'un, pas plus que le critère de la race, que le critère de l'espèce, que le critère de l'âge, etc. La seule chose qui importe, c'est l'importance des intérêts qui sont à l'œuvre. C'est cette importance-là qui doit donner de l'importance, enfin qui doit commander l'importance qu'on accorde à ce qui se passe, quoi. Et donc, je suis égalitariste au sens où je considère qu'effectivement, indépendamment des critères de race, de sexe, d'espèce, etc., c'est les intérêts de tous doivent être pris en compte de façon similaire. Et donc, c'est au nom de l'idée d'égalité, en fait, que je critique l'idée d'humanité. Et je critique l'idée d'humanité comme étant une idée qui court-circuite l'idée d'égalité. Je critique l'idée d'humanité comme étant, oui, une idée qui court-circuite l'idée d'égalité. C'est-à-dire qu'on vit à l'heure actuelle dans une civilisation où, selon qu'on soit humain ou qu'on ne soit pas humain, selon qu'on soit reconnu humain ou qu'on ne le soit pas, on a droit à des, on se voit reconnaître des droits fondamentaux et énormément de d'autres droits moins importants. Enfin, les droits fondamentaux, c'est le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, le droit à la liberté. Mais c'est aussi des droits comme le droit à la liberté de conscience, etc., etc., qui sont des droits qui sont un peu une sorte de moindre des choses si on peut effectivement vouloir vivre une vie satisfaisante dans ce monde. Et ces droits sont déniés à l'ensemble des êtres dont on dénie l'humanité, auxquels on ne reconnaît pas l'humanité. C'est-à-dire déjà fondamentalement l'ensemble des non-humains. Un peu par définition. Mais aussi, je pense, un certain nombre d'humains. Par exemple, bon, c'est plus le cas maintenant depuis quelques décennies, mais les handicapés, les handicapés mentaux notamment, ont toujours eu, se sont toujours vus dénier, au moins tendanciellement, l'humanité. Et par exemple, ont été exterminés dans ce qu'on a appelé l'extermination douce, qui n'était pas douce du tout, sous Vichy, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Simplement, on a cessé de leur donner des rations suffisantes pour leur survie. Et on estime qu'il y a eu environ 40 000 personnes handicapées qui sont mortes de faim et de maladie en 4 ans pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et simplement parce qu'on considérait que c'était des sous-humains. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres catégories d'humains qui se voient dénier une pleine humanité. C'est aussi ceux qui sont reconnus coupables, responsables, et dont qu'on considère qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur humanité. Et donc, on leur retire, même si ce n'est pas le dit, on leur retire les avantages, les privilèges liés à la notion d'humanité. C'est ceux qu'on considère comme des criminels, des monstres, inhumains, etc. Et par exemple, qui sont envoyés en prison. Et où ils sont victimes de ce qu'on appelle des traitements inhumains et dégradants. C'est-à-dire qu'ils se voient retirer la protection de ces droits qui sont pourtant censés s'appliquer à l'ensemble des êtres humains, quoi. La situation dans les prisons, c'est une situation qui est généralisée à l'échelle mondiale, pour laquelle aucun pouvoir ne tente un effort significatif pour que ça aille mieux. Et je pense que ça correspond à une logique profonde, qu'il ne s'agit pas d'un accident ou d'une sorte de dysfonctionnement auquel il faudrait quand même penser un jour à remédier. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de volonté que ça se passe comme ça, et qui est une volonté généralisée, y compris dans la population. On veut que les gens qui ont commis un crime souffrent, payent, etc. Et de fait, on voit bien dans les discussions de comptoir que la plupart des gens considèrent qu'ils n'ont plus droit aux droits humains, quoi. Bon, là, c'était des exemples. Enfin, fondamentalement, les grandes victimes de l'idée d'humanité, ce sont les non-humains. Et là, c'est que cette idée d'humanité, qui aujourd'hui se pose de façon extrêmement positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune référence de type négatif qui est associée à cette idée-là, c'est une idée qui se pose comme liée à la gentillesse, traiter à la bonté, à la mesure, à la modération, traiter avec quelqu'un avec humanité, faire de l'humanitaire. C'est une idée qui se pose aussi comme liée à l'égalité et à l'universalisme. Les grandes déclarations pour les droits humains sont des déclarations qui se disent être des déclarations égalitaires, égalitaristes, et qui se posent comme des déclarations universalistes. Dans les faits, en tant qu'antispéciste, je ne peux que remarquer que l'idée d'égalité, elle permet de créer un groupe spécifique qui a un certain nombre de privilèges et qui investit de droits, y compris de droits fondamentaux comme le droit de vie et de mort, le droit de torture, le droit de privation de liberté sur les autres êtres. Et qu'à ce titre-là, il ne s'agit pas d'un universalisme, mais au contraire d'un particularisme. D'une certaine façon, comparer l'idée d'égalité à un nationalisme ou à un chauvinisme. C'est-à-dire qu'on a pris un groupe, on en a fait le groupe préférence, le critère moral aussi, on a fait de l'essence de ce groupe, l'essence humaine, le critère moral fondamental, on en a fait l'identité fondamentale, comme dans n'importe quel nationalisme. Et on a donc développé un chauvinisme. Dans notre civilisation, les éloges de l'humanité sont quelque chose qu'on trouve à chaque coin de ligne. On est subi à un matraquage idéologique à ce niveau-là qui est général. Et en fait, donc, c'est à ce titre-là que je pense, comme n'importe quel nationalisme, qu'on peut dire qu'en fait, l'idée d'humanité, c'est la défense d'un particularisme qui est posé comme un universalisme, mais qui est un particularisme. Le véritable universalisme, ce serait l'égalitarisme, la prise en compte des intérêts de l'ensemble des êtres qui possèdent des intérêts à défendre, c'est-à-dire l'ensemble des êtres sensibles. Alors, je vais essayer de prendre un exemple qui, pour moi, peut-être être éclairant. Je pense qu'il faut regarder l'idée d'humanité, il faut un peu c'est une idée qui est nimbée, mais comme toutes les idées dominantes, de naturalité. C'est-à-dire que pour nous, ben, c'est clair, oui, on est humain, on fait partie de l'espèce humaine, évidemment que ça a une importance, évidemment que c'est un critère moral. On est né dans cette idée-là, dans cette évidence-là, et on est imprégné de ça. Notre propre conception de nous-mêmes, c'est une conception en tant qu'humain. C'est-à-dire que fondamentalement, on se reconnaît les uns les autres comme humains, on sait qu'il y a des droits et des devoirs qui sont attachés à cette notion, et soi-même, on se perçoit fondamentalement comme humain. Et non pas, par exemple, comme animal, comme être sensible, ou comme individu. On se perçoit comme individu à travers le fait qu'on se perçoit comme humain. On est individualisé parce qu'on est humain, alors que les animaux, par exemple, sont plutôt désindividualisés par leur appartenance d'espèce. On va dire, ils vont plutôt être pris comme des spécimens indistincts de leur espèce, alors que l'appartenance à l'espèce humaine, pour nous, c'est plutôt quelque chose qui nous individualise d'emblée. On est vu comme des personnes, c'est-à-dire comme des individus, comme des êtres singuliers chacun. Et alors là, j'ai perdu le fil, mais sur cette idée d'humanité. Zut. Oui, parce que j'ai fait une digression, mais alors du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire au départ. Que c'est une évidence, oui, que c'est vraiment quelque chose dans lequel on baigne et qu'on a du mal, je pense, à déconstruire comme ça, et qu'il fallait se départir de l'idée de la naturalité de notre appartenance à l'humanité. D'abord, historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire, je disais au Moyen-Âge, par exemple, l'appartenance fondamentale des gens, celle qui primait sur les autres, ce n'était pas tant l'humanité que la chrétienté. Je parle là de l'Occident, évidemment. Mais par exemple, dans l'Antiquité grecque, par exemple, c'était l'appartenance fondamentale, celle qui faisait qu'on se reconnaissait entre égaux, entre pairs, c'était pas du tout l'humanité, c'était la citoyenneté, c'était le fait de faire partie d'une même cité et au-delà du même monde grec, mais qui était un monde justement qui était fédéré, qui était construit en différentes cités. Mais fondamentalement, ceux qui ne faisaient pas partie de la cité, on pouvait les mettre en esclavage, par exemple. Ceux qui ne faisaient pas partie de la cité, mais qui s'installaient dans la cité, par exemple, comme marchands, c'était les métèques, qui étaient des citoyens de seconde zone. Enfin, qui n'étaient pas des citoyens, d'ailleurs, qui avaient très peu de droits par rapport aux citoyens, notamment qui n'avaient pas de droits politiques, etc. Et là, c'était vraiment l'appartenance fondamentale, c'était la cité. Dans plein d'autres civilisations, l'appartenance fondamentale, c'est pas l'humanité, c'est simplement le groupe tribal ou l'ethnie ou des groupes plus larges, mais en tout cas pas du tout l'espèce. Donc c'est un processus historique et politique qui a donné la situation actuelle où c'est l'espèce, l'appartenance à un groupe biologique qui est censée constituer notre appartenance fondamentale. Alors ce processus historique qui a amené à cette situation, évidemment on le présente toujours comme un processus positif, et effectivement il a été positif dans un certain sens, puisqu'il a vu l'inclusion de groupes humains de plus en plus larges être inclus, l'inclusion donc de groupes humains de plus en plus nombreux dans le groupe d'appartenance fondamentale, donc dans le groupe des égaux, dans le groupe de ceux qu'on considère comme ses pairs, comme ceux à qui on doit le respect. Mais en même temps, c'est un processus qui a vu se durcir la distinction d'avec les non-humains, et aussi qui a vu cette distinction d'une part se durcir, mais d'un autre côté devenir poreuse, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on incluait des groupes de plus en plus larges, en même temps on mettait en œuvre des stratégies pour refuser à des groupes le plein accès au groupe d'appartenance fondamentale. Et donc c'était ce que je disais, les femmes, les noirs, etc., qui n'étaient pas pleinement humains, parce qu'ils étaient ressortir du camp opposé de l'humanité, qui est censé être la nature ou l'animalité. Voilà. Et donc aujourd'hui, vraiment, tout ce qui fonde l'éthique de nos sociétés, et je dis de nos sociétés maintenant, c'est à l'échelle mondiale, puisque l'humanisme, c'est une idéologie qui est pratiquement universelle. Mais du coup, non seulement l'éthique, mais ce qui en découle, c'est la politique. C'est-à-dire que l'ensemble de la politique de l'ensemble des pays du monde réfère plus ou moins explicitement à cette idée d'égalité. Il y a certains cas où c'est moins clair, et encore, je pense à des États théocratiques, mais eux-mêmes, en général, réfèrent aussi à une idée d'humanité. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où cette idée-là est une idée centrale, a priori indépassable, et d'une certaine façon tabou. En France, il y a une loi, par exemple, qui punit au pénal toute atteinte à la dignité humaine. Alors bon, qu'est-ce que la dignité humaine? Ça peut être 100 000 choses. Là, dans ce cas précis, c'est une loi qui a été mise en place pour punir des actes racistes, des trucs comme ça. Mais c'est une loi qui pourrait devenir extrêmement répressive si on accroît son champ d'application. Vu que la notion de dignité humaine, c'est une notion qui est extensible à l'infini et qui d'ailleurs fait l'objet de débats passionnés et contradictoires, par exemple entre catholiques et athées, entre partisans de l'avortement, etc., etc. Alors j'aurais aussi pu intituler d'ailleurs mon intervention « Pour en finir avec l'idée de dignité humaine ». Parce que l'idée d'humanité, c'est l'idée donc d'un groupe biologique qui est détenteur d'une dignité spécifique. Et une dignité, c'est une sorte d'honneur. C'est un mot qui signifiait plus ou moins honneur dans l'Antiquité. Moi, je dirais que c'est la version démocratique de la notion aristocratique d'honneur, quoi, la notion de dignité. Et fondamentalement, la critique antispéciste de l'idée d'humanité, c'est la critique justement du fait que notre commune humanité en soi, même si elle peut comprendre des caractéristiques qui sont un peu extraordinaires ou exceptionnelles, ne nous procure pas de dignité particulière qui devrait être refusée aux autres êtres sensibles. Alors, si au lieu de parler là d'humanité, on parle des caractéristiques qui sont habituellement associées à l'idée d'humanité, comme le fait d'être des êtres raisonnables, des êtres rationnels, des êtres de liberté, ou des êtres sociaux, des êtres de langage, des êtres qui se projettent dans l'avenir, etc., etc., des êtres d'abstraction. Enfin bon, les propres de l'homme, comme on dit, sont infinis. Je veux dire, même si on prend non pas l'idée d'humanité, mais des critères plus précis comme ces différents propres de l'homme que je viens d'énumérer, il n'y a aucune raison de considérer qu'ils doivent entraîner une dignité particulière. On ne voit pas en quoi le fait d'être raisonnable plutôt que quelqu'un qui ne l'est pas devrait entraîner une dignité particulière, ou d'être un être liberté, etc. D'être un être de liberté. Ou... D'une part, il n'y a pas d'un côté des êtres raisonnables que seraient les humains et d'un côté des êtres qui ne seraient pas raisonnables, comme les animaux. On sait de plus en plus qu'il y a des gradations constantes des uns aux autres. Et on sait de plus en plus, en outre, que c'est un biais anthropomorphique que de parler de gradation, c'est-à-dire une sorte de progression de l'animal vers l'humain, mais qu'en fait, on a des types d'intelligence qui peuvent être assez variés. Par exemple, il y a des types d'intelligence qui sont, par exemple, des façons de se situer dans l'espace, où des animaux vont être beaucoup plus forts, ou en termes de mémoire, ou en termes de reconnaissance de ceci ou cela, etc. C'est-à-dire que c'est pas tant à ce niveau-là. Quand on parle de gradation d'intelligence, c'est qu'on a toujours en arrière-plan une idée déjà précise de ce qu'on appelle intelligence et qui est liée à nos propres facultés, etc. Bon, donc, d'une part, en tout cas, il y a un continuum entre l'intelligence des individus des autres espèces animales et celle des membres de l'espèce humaine. Mais en outre, au sein de l'espèce humaine, il y a beaucoup de gens qui ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de l'intelligence ou de la liberté humaine. C'est l'argument traditionnel des cas marginaux. Hein, c'est déjà les tout jeunes enfants, les nourrissons, mais aussi les personnes âgées, séniles, les handicapés mentaux profonds, etc. Les personnes qui ont été victimes d'accidents cérébraux, etc. Qui se voient reconnaître l'humanité et la dignité humaine spécifique sans posséder les attributs qui sont censés justifier ça. Et de fait, on ne voit pas pourquoi on devrait leur retirer les garanties des droits fondamentaux que cette dignité est censée conférer, sous prétexte que effectivement ils peuvent, je sais pas, pas calculer de la même façon ou pas réagir de façon si adéquate à des situations complexes, etc. quoi. Donc fondamentalement, cette idée d'humanité, d'un point de vue éthique, c'est une idée qui n'entretient pas de lien logique avec les conséquences qu'on en tire, c'est-à-dire la façon de traiter les gens. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en quoi le fait d'être humain ou non humain devrait intervenir, pas plus que le fait d'être noir ou blanc, ou homme ou femme ou autre. Et donc, le fait de la placer comme valeur suprême, ça n'a pas d'autre rôle que d'empêcher de considérer la notion d'égalité comme la notion éthique fondamentale. Et ça n'a pas d'autre rôle que d'empêcher la prise en compte de la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à ressentir les sensations, comme critère fondamental à partir duquel on peut dire que des êtres ont des intérêts à défendre qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que cette idée d'humanité, elle joue un rôle anti-éthique, comme l'idée de nature, comme je le disais précédemment, au sens où elle vise à nous empêcher de raisonner en termes éthiques, de prise en compte des intérêts des autres. Et de fait, la morale humaniste, c'est une morale qui dit qu'il faut prendre en compte l'humanité de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas les intérêts de vous et moi qui doivent être pris en compte, c'est notre humanité. Et notre humanité, elle est définie indépendamment de vous et moi. Elle est définie suivant les modes sociaux du moment. Et par exemple, à l'heure actuelle, prendre en compte mon humanité, c'est par exemple considérer, prendre en compte l'humanité en moi, c'est par exemple m'interdire de me suicider ou m'interdire l'euthanasie, même si je souffre énormément, au motif que la vie humaine est sacrée. Voilà encore un cas où l'idée d'humanité se retourne contre les humains eux-mêmes. Dans d'autres cas, ça peut être considérer que des embryons, qui sont des amas de cellules qui ne ressentent encore rien, sont des êtres humains et donc doivent avoir droit à se voir reconnaître une dignité humaine et donc des droits humains fondamentaux. Et les conséquences en sont que, au nom de cette idée d'humanité, on va accorder une sorte de droit sacré à la vie, à des amas de cellules qui ne ressentent rien, et au détriment éventuel des intérêts, par exemple, de la femme qui les porte, qui, eux, sont des intérêts bien réels, bien concrets et bien présents. Ça, c'est encore, je pense, une des critiques qu'on peut faire, par exemple, des conséquences de cette idée d'égalité, du fait qu'elle court-circuite la réflexion éthique. Alors, il y a pas mal de points que je ne vais pas développer, sinon ça durerait trop longtemps. Alors, simplement, les points sur lesquels je voulais insister, c'est que cette idée d'humanité, elle se définit à l'encontre de l'idée de nature et de l'idée d'animalité, que je pense que toutes trois sont des notions qui sont extrêmement sujettes à caution, c'est-à-dire qui sont finalement très difficilement défendables en tant que concept précis, par exemple scientifique. L'idée d'humanité d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. L'idée de nature d'un point de vue scientifique, ça n'existe pas. L'idée d'animalité d'un point de vue scientifique, on ne sait pas non plus ce que c'est. Par exemple, d'un point de vue scientifique, est-ce que l'humanité, c'est certaines caractéristiques comportementales en termes de capacité cognitive, de capacité mentale? Est-ce que c'est au contraire un certain type de génome? Mais même ainsi, ça veut dire quoi un type de génome? C'est-à-dire, on est tous différents, on est tous porteurs de génomes différents, et trouver des critères qui nous permettent de distinguer dans tous les cas un génome humain d'un génome qui n'est pas humain, ça relève du parti pris en fait, et non pas de... et non pas de quelque chose qui s'imposerait de soi-même. Est-ce que un ovule ou un spermatozoïde qui sont porteurs du génome humain sont humains, doivent être déclarés être des êtres humains, etc., etc. Je veux dire, la notion d'humanité en tant que telle est loin d'être aussi immédiate que l'idée qu'on s'en fait, quoi. Est-ce que des humains qui ont des anomalies génomiques sont toujours des humains? Alors, par exemple, on se caractérise par un certain nombre de paires chromosomiques. Mais il se trouve qu'il y a des gens qu'on continue de considérer comme des humains qui n'ont pas le même nombre de paires chromosomiques. Ben, les trisomiques, par exemple, ils ont, je crois, un chromosome en plus, hein, je ne sais plus.
Oui.
On est tous là. C'est-à-dire que même les définitions qui se veulent scientifiques, qui se veulent fonder sur des notions scientifiques, en tout cas comme le génome, l'ADN, etc., etc., sont des définitions de parti pris, sont des définitions, en fait. C'est-à-dire sont vraiment des parti pris, quoi. Et non pas... et non pas des descriptions comme ça du réel qui viendraient s'imposer d'elles-mêmes, quoi. Mais à la rigueur, c'est presque anecdotique de critiquer la notion d'humanité sous cet angle-là, mais c'est simplement pour rendre compte que cette notion est une notion construite, qu'elle résulte de choix qui sont au final des choix sociaux et politiques, des choix historiques, et qu'il ne s'agit pas du tout, comme on le ressent, comme on a appris à le ressentir dans notre civilisation, de quelque chose qui irait de soi. Voilà. Et tant que le critère fondamental, la valeur fondamentale de notre société, en termes politiques et en termes éthiques, restera la notion d'humanité, c'est-à-dire une notion fondamentalement spéciste, c'est bien clair que les animaux continueront à en faire les frais. Alors, on peut imaginer des spécismes soft ou des humanismes soft qui reconnaissent dans les animaux des sortes de frères inférieurs, mais on reste dans une pensée hiérarchisée à ce moment-là, et on reste dans une pensée, au final, du mépris. C'est-à-dire, dans une pensée, le problème, de toute façon, est même pas tant le mépris que le fait que la pensée soit une pensée de la hiérarchie, c'est-à-dire du plus et du moins. Fondamentalement, l'idée d'humanité, qui se pose pourtant à l'heure actuelle comme une idée liée à l'idée d'égalité, comme une idée égalitariste, etc., c'est une idée qui pose la question en termes de supérieur et d'inférieur. Les notions, on est plus ou moins humain, et il faut l'être sans cesse plus. Et par exemple, les notions qui ne sont pas des notions qui sont utilisées couramment, mais qui ont eu cours à des époques de l'histoire et qui ont fait des ravages, de surhumain ou de sous-humain, je pense que ce sont des notions fondamentales liées à la notion d'humanité. Ce n'étaient pas des accidents, c'était ces notions de sous-humain et de surhumain sont des notions qui révèlent en fait fondamentalement la réalité de l'idée d'humanité. Et parce que effectivement l'idée d'humanité, elle est d'emblée tout entière construite par opposition, par distinction d'avec l'idée d'animalité. Et par opposition et par distinction, en fait, quand je dis par distinction, c'est à prendre dans les deux termes du mot. C'est-à-dire que se distinguer, c'est à la fois se différencier et c'est aussi à la fois se valoriser. Quelqu'un qui est distingué, c'est quelqu'un qui est... Oui, c'est se valoriser, c'est se... Et fondamentalement, cette idée d'humanité, d'emblée, dès son origine, c'est une idée fondée sur la volonté de se distinguer. Donc dans ces deux sens du terme, se différencier et se valoriser, donc se valoriser au détriment de ceux dont on se différencie. Voilà. Et donc pour en revenir à mon sujet, et puis je vais un peu conclure là-dessus, et puis en fait il y a plein de sujets que je n'aurais pas abordés, mais ça va durer trop longtemps sinon, puis on y reviendra peut-être dans les jeux de questions-réponses et autres, mais... Je pense qu'on a tout intérêt à essayer, dans notre militantisme, par rapport à la question animale, d'attaquer l'idée d'humanité, de la fragiliser en tout cas, parce que c'est une idée qui est extrêmement ancrée, extrêmement difficile à fragiliser, de la subvertir pour lui ôter son degré d'évidence, son caractère d'évidence naturelle, et pour essayer de la faire apparaître pour ce qu'elle est, un construit politique, et un construit politique qui n'est pas neutre, qui n'est pas gentillet, comme vise à le rendre l'idéologie humaniste dans laquelle on baigne, mais qui est un construit politique lié à des systèmes de domination qui sont monstrueux, qui sont sanguinaires, et sans lesquels elle n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que si on ne vivait pas dans un monde où les non-humains sont exploités, comme je le disais, de façon absolument monstrueuse, sans scrupules et sans aucun respect du strict minimum du moindre petit droit, si on ne vivait pas dans un tel monde, cette idée d'humanité, on se demande bien À quoi elle pourrait servir? Quel usage elle trouverait? Pourquoi on se référerait à elle? Voilà. Et je pense que fondamentalement, cette idée d'humanité, elle est liée au système de domination et elle disparaîtra avec lui. Et je pense que par contre, inversement, pour lutter contre le système de domination spéciste, c'est assez fondamental de tenter de miner cette idée-là, quoi. Ce que je vous propose, c'est que je m'arrête là, quitte à revenir sur des points soit que j'ai pas traité, soit que j'ai traité trop vite ou mal, qu'on prenne une demi-heure pour en discuter tous ensemble et qu'ensuite on fasse les discussions autour de cette question-là en petits groupes. Ça vous va? Il est 11h02. On se prend une demi-heure là, du coup, pour... ce que je propose, c'est une discussion, enfin, ou alors, soit un jeu de questions-réponses avec moi, soit une discussion plus large où les gens se répondent, mais autour de ce que je viens de dire. Déjà, peut-être essayer d'y clarifier s'il y a des trucs qui semblent confus ou qui semblent obscurs. Et qu'ensuite, on fasse des discussions en petits groupes. Est-ce que quelqu'un ferait la modération pour veiller à ce qu'on ne se coupe pas la parole, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui parlent? Ouais.
Alors, j'approuve totalement ton analyse. En fait, c'est l'histoire d'une idéologie qui est apparue dans plusieurs continents de supériorité. Je suis d'accord avec tout. Il est évident que tu parles d'un point de vue athée, moi, je suis pas d'un point de vue métaphysique, mais sans religion. Je ne suis ni chrétienne, ni hindouiste, ni rien de tout ça. Mais mon point de vue est métaphysique dans le sens. Il induit une sensibilité au vivant, une unité de tout ce qui est vivant, qui peut apporter beaucoup d'évolution, je pense. Donc, je souhaiterais, s'il y a des gens qui sont d'accord, faire un petit groupe pour élaborer tous ces points. Ensuite, je voudrais venir sur des phénomènes historiques qui manquent dans mon analyse, à savoir que la chrétienté est évidemment un petit bordel, je suis d'accord, mais il y a eu durant ces siècles des choses complètement éradiquées dont on ne parle dans aucun livre d'histoire, à savoir, par exemple, les sorcières du Moyen-Âge, c'était des femmes qui avaient thérapeutes qui n'étaient pas dans l'orthodoxie chrétienne, qui avaient émancipé dans leur être cette métaphysique dont je parle, que en Orient on appellerait des tantriques, elles avaient développé une énergie sexuelle, attention, c'est pas la sexualité est un mode d'emploi de l'énergie sexuelle, mais elle l'avait fait fleurir dans telle sorte qu'elle pouvait avoir beaucoup d'empathie pour les malades, tous les êtres, et être de grandes guérisseuses. Ce phénomène a eu lieu en Europe, on a tué des gens par millions, c'est des sorcières, en Orient, pareil, ça n'induisait pas de pouvoir de l'homme sur la femme, donc pas de pouvoir politique, donc derrière tout ça, cette idéologie de l'humanité, il y avait le besoin de dominer, c'est très juste. Mais pourquoi ce besoin de dominer? Alors là, c'est encore autre chose, et je souhaiterais vraiment faire un groupe là-dessus. Pourquoi y a-t-il ce besoin de dominer? Pourquoi sommes-nous cruels? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons liées à un déficit d'animalité, à savoir qu'on a ratiboisé dans notre éducation très tôt, avec des notions de culpabilité, de sale, impure, etc., la fonction sexuelle? Ceci dit, je ne suis pas une fanade de William Rech, qui a parlé de la fonction sexuelle. C'est une chose importante, certes, mais il y a bien plus large que ça dans le développement subtil de l'énergie sexuelle. Alors, on ne va pas confondre quand je dis faim et alimentation, l'appétit, c'est une chose. Moi, je parle de l'énergie sexuelle, et la sexualité est un mode d'emploi dont on peut discuter à l'infini. Mais certaines ont fait leur preuve, d'autres ont été absolument destructrices dans le monde. Donc historiquement, il manque ces deux notions, l'éradication de mode de vie qui englobait tout le vivant et donnait une société beaucoup plus égalitariste. Et ça, si les gens s'intéressent, moi j'ai beaucoup posé ces choses-là. Et un dernier point, il y a toutes les données scientifiques actuelles sur l'ouverture du cerveau droit. Ce n'est pas une élucubration, il y a des neurochirurgiens, j'ai un des petits livres connus à ce sujet. À l'occasion d'un AVC, des neurochirurgiens eux-mêmes victimes d'un AVC ont fait l'expérience que dans notre culture, on développe surtout le cerveau gauche et que si par accident ou aventure métaphysique on arrive à épanouir le cerveau droit, il y a automatiquement une empathie qui se développe. Alors c'est scientifique, hein, c'est pas une fumeuse, et je trouve que ces deux ouvertures-là, le déficit de la vraie animalité, je pense que l'être humain jaloux quelque part de la sexualité animale, même si on a mis le mot bestial en plus dernière là-dessus, il y a une richesse, une célébration, une jouissance que l'homme n'a plus. Tous les sexologues sont d'accord là-dessus. Au bout de 3 ans, les relations de couple sont ternes et ennuyeuses. Mais ce n'est pas définitif, justement, parce qu'on n'a pas trouvé le mode d'emploi juste de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est des points que je trouve passionnants, parce que moi, c'est par la souffrance énorme que je ressentais dans la cruauté que j'ai eu une réponse. D'où ça vient. Moi, c'est seulement les conclusions, mais d'autres les partagent. Parce que...
Alors, oui, ça me fait penser qu'il y a un point important que j'ai complètement oublié d'aborder. Effectivement, il y a eu un élargissement, et en même temps, il y a eu une sorte de... Mais on en revient là. Mais en tout cas, il y a eu une rigidification des frontières.